Nous relisons à la fin de l'évangile selon Luc, l'un des textes qui nous sont proposés aujourd'hui pour ce premier dimanche de l'Avent. Luc, chapitre 21, les versets 25 à 33. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles sur la terre. Les populations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. Certains mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, dans toute sa puissance et sa gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance sera proche. Puis Jésus leur dit cette parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est la vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quand on cherche à se présenter devant quelqu'un, devant un certain nombre de gens, on trouve toujours ou souvent difficile de savoir comment se présenter, de savoir quel élément mettre en avant pour essayer autant que possible de paraître à son avantage, c'est mieux, sans éviter le sujet délicat de ses lacunes, parce qu'il faut bien aborder aussi de temps en temps le sujet. S'il fallait que nos journées soient rythmées par un entretien d'embauche permanent pour tout et n'importe quoi, comment faudrait-il répondre à ceux qui traquent nos points forts et nos points faibles et qui ne cessent de nous les demander, peut-être avec un sourire malicieux quand il s'agit d'aborder ses faiblesses? Chacun aurait sans doute à sa manière de répondre, peut-être d'enjoliver, mais aussi d'esquiver, de trouver le bon équilibre entre vraie prétention et fausse modestie. Le plus difficile dans les moments où on est sommé de se présenter est de s'auto-évaluer. Ce n'est pas dans ces moments-là de dresser la liste raisonnablement longue de ses atouts et de ses points forts, mais de parler honnêtement de ses faiblesses, sans se dessiner une cible sur le poitrail ou dans le dos. C'est ça qui est difficile. C'est toujours un exercice compliqué et pénible. Et ça, c'est quand on est tout seul face aux autres. Si nous nous plaçons du point de vue de l'espèce humaine, nous sommes peut-être tentés de penser en premier lieu à la petitesse de l'être humain perdu dans ce vaste monde. Ce pauvre bipède a tout de même peu de défense naturelle, d'une manière générale, pour affronter les rigueurs du climat. Je me suis laissé dire que certains ont une pilosité tellement peu développée sur le dessus qu'ils sont à la merci du moindre ultraviolet. Je n'aimerais pas être à leur place. D'une manière générale, nous faisons face à l'agressivité insouciante d'une nature qui se contente de faire ce qu'elle doit faire, comme si elle se fichait de nous. Elle le fait, et elle le fait innocemment. L'homme a mis du temps pour inventer et construire tout ce qui lui permet de domestiquer le monde et de n'y être pas trop mal, de le rendre supportable, vivable, alors que les autres espèces n'ont pas eu besoin de tous ces artifices. Dès la naissance, ou presque, après une période d'éducation plutôt vigoureuse pour certains, voire brutale, un sevrage express, chaque spécimen est prié de se débrouiller et aucun n'en fait une pendule. Décidément, nous sommes une espèce bien géniarde. Et pourtant, aucune espèce comme la nôtre n'a pullulé au point de tout envahir, tout accaparer, tout exploiter, tout transformer en objet, surtout, en objet à notre service. Si nous nous plaçons cette fois du point de vue de nos réalisations, nous sommes la seule espèce à avoir imposé sur l'environnement direct une telle puissance, une telle emprise, surtout. Sous cet angle, il n'est plus question de faiblesse, au contraire. Ce qui nous distingue, c'est la trace de nos exploits techniques développement du langage, la capacité à fixer par écrit ce qui nous semble important, essentiel pour le garder précieusement, le souci de transmettre aux générations futures les connaissances qui permettent d'apprivoiser toujours davantage un monde qui ne semblait au départ pas vraiment fait pour nous. Nous ne sommes pas si bêtes finalement. Notre écriture, celle que nous relisons ici, n'a d'ailleurs pas seulement servi à fixer des lois et nous donner des prophéties qui ont été l'occasion parfois de savants calculs. Elle nous a aussi conduit à tenter de domestiquer les dieux de notre cerveau, maladroitement, les dieux que ce cerveau voyait à l'œuvre dans ce monde un peu trop grand pour nous. C'est normal, nous étions un peu perdus, nous avons cherché des alliés, des soutiens, des complices même pour augmenter notre puissance au point de nous croire invincibles, alors qu'un souffle peut nous faire disparaître assez rapidement. Effectivement, de nombreux échecs et quelques catastrophes retentissantes aussi nous le rappellent de temps à autre. Nous ne sommes pas invincibles, et non. Les éléments nous ramènent à notre petitesse de temps en temps, les circonstances, les jeux de forces gigantesques qui n'obéissent pas à nos petits désirs nous rappellent qu'il y a des forces qu'on ne domine pas. C'est comme ça. Et c'est justement dans ces moments-là, lorsque nous ne pouvons plus et ne comprenons plus, que certains recommencent à parler de la colère des dieux ou de Dieu. Qu'on soit polythéiste à l'ancienne ou monothéiste chic et évolué, n'y change rien. La croyance que ce qui nous est hostile a quelque chose à voir avec une colère divine revient très vite en nous. Le texte du jour porte évidemment un peu la trace de ce réflexe bien ancré en nous, même s'il dit tout à fait autre chose. Les textes de la Bible contiennent de nombreux exemples de cette manière de lire les épreuves subies. Il suffit de se reporter à d'autres récits. Les catastrophes endurées, les attentes déçues, il y en a plein, à des centaines de pages dans la Bible. Le déluge était la conséquence d'une méchanceté humaine, justement punie par Dieu. Les défaites militaires et les invasions étaient une juste rétribution de l'injustice sociale et de l'infidélité religieuse ou de l'impureté religieuse. Et même le retour d'exil, qui n'a pas été tout à fait aussi paisible qu'on le croit, signifiait tout de même à ce moment-là que Dieu s'était enfin calmé. Mais nous ne nous sommes pas éternellement, et heureusement, satisfaits de cette théologie simpliste. Parce que les auteurs bibliques eux-mêmes ont peu à peu écarté ce genre de facilité pour faire place à quelque chose qui est une espérance de l'après. Penser et attendre fermement l'après. C'est ce qui petit à petit a pris la place, à commencer par les écrits bibliques. C'est à ce moment-là que l'attente d'un Messie commence à germer dans les têtes, parce que les têtes sont prêtes, parce que les esprits sont mûrs. À ce moment-là, il n'était déjà plus question de fouiller le ciel pour y discerner des signes d'apaisement après une colère certes dévastatrice, mais sainte et méritée. Il fallait à la fois annoncer et préparer la venue de quelqu'un qui incarnerait dorénavant et perpétuellement ce besoin d'après, qui est aussi présent chez nous, malgré l'occupation des légions romaines, ce qui n'était pas rien. Le texte de Luc prend place à cet endroit précis de l'histoire des hommes. Il reprend les propos de Jésus et, comme dans tout texte humain, il tente de transmettre l'attente d'un après, une espérance essentielle aux générations suivantes. De ce seul point de vue, c'est déjà réussi. Mais on le sait bien, la destruction qui vient n'épargnera pas, une fois encore, ce tout petit pays. La ville sainte sera ravagée, le temple sera détruit, encore une fois. Et une fois encore, à la contemplation de ce désastre, la question lancinante reviendra. D'où peut bien venir une force aussi terrible qui laisse croire que Dieu lui-même est presque battu à domicile ? Il nous faut nous demander ici comment Jésus répond à cette question terrible, parce que c'est un peu ce qu'il fait dans ce texte. Dans un premier temps, on a vraiment l'impression qu'il donne raison aux thèses anciennes, où l'annonce des catastrophes à venir prenait toute leur place. C'est un peu le style de cette prise de parole. Il laisse apparemment peu d'espace à une ouverture, même petite. C'est l'impression, en tout cas, que nous avons au commencement. C'est apparemment une nouvelle édition du même fatalisme qui souligne l'inéluctabilité et la nécessité d'une destruction. Voilà, ça va vous arriver, c'est mérité, c'est bien fait. On brûle tout, on replante, et puis on repart sur de bonnes bases. Mais si nous sommes attentifs, en relisant même la totalité de ce chapitre, qui est écrit dans le même style, hein, un style dit apocalyptique, le style apocalyptique est destiné à montrer, dévoiler quelque chose, pas annoncer des catastrophes, on ne se le répétera jamais assez. Si nous relisons ce texte, le thème de la colère de Dieu n'apparaît pas du tout. Même dans les catastrophes annoncées ou celles qui sont simplement évoquées à défaut d'être promises, comme une punition juste et méritée. Dieu est en dehors des manifestations de colère. Il n'apparaît pas dans ce récit. Il n'est plus ici ce souverain vexé qui venge son honneur bafoué en déclenchant des cataclysmes, même si les hommes ont longtemps cru à un Dieu comme celui-ci. Pour le simple plaisir de nettoyer les écuries, pour nous menacer régulièrement d'une fin du monde qui, décidément, n'arrive toujours pas. Vous vous souvenez peut-être de ce film à la fois beau et terrible de Werner Herzog qui s'appelait Aguirre ou la colère de Dieu. Aguirre est interprété par Klaus Kinski, ça lui allait comme un gant. Il joue le rôle d'un conquistador ambitieux et complètement fou. Complètement fou. Plusieurs fois, on le voit déclarer les armes à la main, souvent avec un regard illuminé. Je suis la colère de Dieu, qui d'autre est avec moi? Et à la fin du film, on le voit juché sur un radeau un peu précaire, les rondins tenus par des cordes commencent à se disloquer, on sent que c'est bientôt la fin. Et il emmène évidemment toute cette expédition à sa perte. Tout le monde meurt, de faim, de soif, d'autres se perdent dans la forêt, peut-être volontairement pour certains d'entre eux. D'autres se noient, les autres sont tués par des flèches venant des berges du fleuve. Et à la fin, il est tout seul sur ce radeau, envahi par des petits singes qui sautillent sur les cadavres. Et même là, il a encore la force de dire « Je suis la colère de Dieu, qui d'autre est avec moi alors que plus personne n'est avec lui ?» Les dernières images du film montrent le bilan terrible de sa folie, de son envie de colère qui n'est pas venue de quelqu'un d'autre que de lui-même et de ses entreprises folles. Il a incarné tout seul la soi-disant colère de Dieu et plus personne n'est avec lui. Pas même Dieu, qui est le grand absent du film, alors même que ses expéditions, on le sait, avaient pour but d'apporter la vraie foi à des primitifs. En plus de la soif de l'or, évidemment. Il est bien possible que le Jésus de Luc, ici, nous entraîne ailleurs que dans ce que les hommes ont continué à rêver ou cauchemarder bien longtemps après lui, des considérations sur la colère de Dieu. Aucune allusion n'est faite à une quelconque colère dans ce texte. Des événements terribles, oui. Une colère divine, non. Il nous est seulement recommandé de veiller et prier, comme pour mieux nous dire que l'attente et l'espérance dépendent de nous, de l'exercice pertinent de notre intelligence et de notre sagesse parce que nous en avons. Jésus renvoie la colère de Dieu au musée des idées religieuses devenues folles et qui ont pourtant perduré après lui. Il a fait appel à notre esprit inventif qui est justement celui de la veille. Il fait aussi appel à la foi qui n'est pas l'adhésion à quoi que ce soit ici, mais la capacité à transformer une attente passive, ce que le temps de l'Avent ne doit pas être, en une veille active et confiante. Passer de l'un à l'autre, c'est ça, avoir foi. Il n'y a pas, ou il n'y a plus, ou il n'y a jamais eu de colère de Dieu. C'est peut-être notre cervelle inquiète qui a sécrété ces catastrophes. Et quand nous nous demandons qui d'autre est avec nous, en nous retournant, Nous voyons que nous ne sommes pas seuls, nous, mais bien entourés par tous ceux dont la veille active et confiante dit bien mieux ce qu'est Dieu que toutes les colères du monde. Amen.